Livre des Actes, chapitre 20. Or, après que le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples et les ayant embrassés, il partit pour aller en Macédoine. Ayant traversé ces quartiers-là, ayant beaucoup exhorté les disciples, il vint en Grèce. Et après qu'il y eut séjourné 3 mois, les Juifs lui ayant dressé des embûches comme il allait s'embarquer pour la Syrie, on fut d'avis de s'en retourner par la Macédoine. Et Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, l'accompagna jusqu'en Asie. Et les Thessaloniciens, Aristarque et Segon, et Gaius et Timothée de Derbe, et Tychique et Trophime d'Asie. Ceux-ci, ayant pris les devants, nous attendirent en Troade, et pour nous, nous partîmes à force de voile de Philippe après les jours des pains sans levain. Et nous arrivâmes au bout de 5 jours auprès d'eux dans la Troade, et nous y séjournâmes 7 jours. Et le premier jour de la semaine, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, Paul, qui devait partir le lendemain, leur fit un discours et prolongea le discours jusqu'à minuit. Or, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés, et un jeune homme nommé Eutyche, qui était assis sur la fenêtre, accablé d'un profond sommeil, comme Paul prêchait très longuement, tomba accablé par le sommeil du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul étant descendu, se pencha sur lui et l'ayant embrassé, il dit « Ne soyez pas troublés, car son âme est en lui. » Et après qu'il fut remonté et qu'il eut rompu le pain et mangé, et qu'il eut conversé longtemps jusqu'à l'aube, il partit. Elles amenèrent le jeune garçon vivant et furent extrêmement consolées. Or, pour nous ayant pris les devants sur un navire, nous fîmes voile vers Assos, où nous devions prendre Paul à bord, car il avait ainsi ordonné, étant dans l'intention d'aller lui-même à pied. Et lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. Ayant fait voile de là, nous arrivâmes le lendemain à la hauteur de Chios, et le jour suivant, nous touchâmes à Samos. Et nous étant arrêtés à Trogyle, nous vînmes le jour d'après à Milet, car Paul avait résolu de passer devant Éphèse, de manière à ne pas dépenser son temps en Asie, car il se hâtait pour être, s'il lui était possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Or, il envoya de Milet à Éphèse et appela auprès de lui les anciens de l'assemblée. Et quand ils furent venus vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes, et des épreuves qui me sont arrivées par les embûches des Juifs. Comment je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, de sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, étant lié dans mon esprit, je m'en vais à Jérusalem, ignorant les choses qui m'y doivent arriver, sauf que l'Esprit Saint rend témoignage de ville en ville, me disant que des liens et de la tribulation m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, ni ne la tiens pour précieuse à moi-même, pourvu que j'achève ma course, le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, moi je sais que vous tous, parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin, que je suis net du sang de tous, car je n'ai mis aucune réserve à vous annoncer tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour être l'assemblée de Dieu, laquelle il a acquise par le sang de son propre fils. Moi, je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et il se lèvera d'entre vous-même des hommes qui annonceront des doctrines perverses pour attirer des disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni la robe de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont été employées pour mes besoins et pour les personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré en toutes choses qu'en travaillant ainsi, il nous faut secourir les faibles et nous souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui lui-même a dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir ». Ayant dit ces choses, il se mit à genoux et parla avec eux tous. Et ils versaient tous beaucoup de larmes. Et se jetant au cou de Paul, il le couvrait de baisers, étant surtout peiné de la parole qu'il avait dite, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent toute la vie. Ce merveilleux chapitre 20 des Actes place devant nous une phase du troisième voyage de l'apôtre, qui débute à la fin du chapitre 18e, et qui nous fait part d'enseignements qui sont comme un testament de cet apôtre, et plus particulièrement à l'intention des anciens d'Éphèse. Et nous savons dans quelle mesure nous allons apporter une attention particulière aux enseignements, aux recommandations, aux exhortations que peuvent nous donner ceux qui arrivent au terme d'un service, au terme de la course. Au cours de ces traites, nous savons que l'apôtre se trouvait au chapitre 15 à Jérusalem, au chapitre 16 à Philippe, au chapitre 17 à Thessalonique, à Bérée, à Athènes, pour s'arrêter longuement à Corinthe au chapitre 18, et c'est ensuite à Éphèse que nous voyons se dérouler les circonstances qui font l'objet du chapitre 19. Et notamment le tumulte qui a été soulevé à cause de l'activité de Démétrius, confectionnant la diane des Éphésiens, ce qui fait que Paul a dû quitter donc Éphèse, ville de laquelle il avait écrit sa première lettre à l'intention des Corinthiens. Il était très préoccupé quant à l'effet qu'aurait produit cette lettre sévère à l'égard de ses chers Corinthiens parmi lesquels il avait travaillé si longtemps, mais desquels il avait appris le désordre qui était toléré dans cette assemblée. Paul ne va pas abandonner ses Corinthiens en raison des dispositions charnelles qui les animent, bien au contraire, animé d'une égale sollicitude pour toutes les assemblées de Dieu, il va leur adresser cette lettre en leur rappelant à l'ouverture leur privilège lié à leur position de sanctifié, d'enfant de Dieu, d'assemblée de Dieu, tout en plaçant avec solennité et sévérité leur responsabilité devant leur conscience et leur cœur en rapport avec la sainteté qui requiert la maison de Dieu et de laquelle ils avaient perdu conscience. Ils espéraient trouver Tite pour avoir des nouvelles de ses Corinthiens. Mais il ne l'a pas trouvé en Troade, ce n'est qu'en Macédoine qu'il apprendra les heureuses nouvelles quant à l'effet produit par cette lettre, d'où l'envoi de la seconde. Ce tumulte à Éphèse ayant donc pris fin, nous voyons Paul qui fait venir les disciples et les embrasse et il part pour la Macédoine, où se trouvaient donc différentes assemblées, telles que Thessalonique, Bérée, etc. Accomplissant son service dans le cours de ce troisième voyage, il avait donc l'intention de partir depuis la Grèce directement pour gagner la Syrie. Mais nous voyons que ce que l'homme se propose ne rencontre pas nécessairement ce que Dieu va disposer. Et comme nous le lisons dans l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 15, combien il importe d'accompagner tout ce que le fidèle même et le serviteur de Dieu peut envisager de cette pensée si le Seigneur le veut. Et le Seigneur ne voulait pas qu'il rentrât directement en Syrie. Et il se sert de qui ? il veut pour faire ce qu'il veut, car il devait passer encore une fois vers ses anciens défenses. De telle sorte qu'il va devoir remonter par le chemin qu'il avait emprunté pour venir, remonter par la Macédoine, traverser la mer Égée, se trouver de nouveau en Asie mineure. C'est ce que nous avons donc dans le premier paragraphe, où nous le voyons accompagné de ceux qui ont à cœur de le suivre dans son voyage. Et combien il est beau de voir que ces noms des frères qui ont eu à cœur d'accomplir ce long voyage dans les conditions de l'époque ne sont pas oubliés dans la pensée de Dieu. Leur nom est inséré dans le canon des Écritures. Quel encouragement! Car en servant les frères, on sert le Seigneur. Et rien n'est oublié, leurs noms sont inscrits là. Nous le voyons donc arriver en Troade le premier jour de la semaine, lorsqu'ils se retrouvent assemblés pour rompre le pain. Notons a priori que les croyants de cette assemblée n'ont pas rompu le pain à l'occasion du passage de l'apôtre, mais ils ont rompu le pain parce que c'était le premier jour de la semaine. Ce jour qui met de côté tout ce qui était des ordonnances antérieures, qui avait le jour du sabbat comme jour établi et réservé à l'Éternel, mais jour dont les caractères ont été foulés aux pieds par le peuple terrestre, jour que le Seigneur a passé dans le tombeau pour donner naissance à un nouveau jour qui appartient au Seigneur et que nous avons le privilège de célébrer le premier de la semaine, même si la chrétienté aujourd'hui a dépouillé ce jour de son caractère en le plaçant si facilement et fréquemment en fin de semaine. Premier jour de la semaine est ce qui caractérise d'une manière particulière ce jour, c'est que c'est le jour où l'on se souvient de l'œuvre de la rédemption, de l'œuvre du Seigneur de sa mort. On était donc réunis ce jour-là pour rompre le pain. Institution de la scène par le Seigneur la nuit même dans laquelle il fut livré, puis ensuite nous avons sa célébration ici par ses fidèles croyants rassemblés et nous aurons par la suite les enseignements que l'apôtre Paul développera, notamment dans l'épître aux Corinthiens, la première, rappelant ce caractère de cette célébration de la scène qui doit demeurer dans nos cœurs selon toute la valeur qu'elle a pour le Seigneur et qu'elle doit avoir pour nos affections. Rompant le pain chaque dimanche, comme on l'a eu dit, comme si c'était la première fois comme fraîcheur et comme si c'était la dernière fois avec toutes les émotions que ça doit comporter. Nous souvenir de la mort du Seigneur. S'ils n'ont pas rompu le pain à l'occasion du passage de Paul, néanmoins, ils ont bénéficié de son passage pour avoir la dispensation d'enseignement comme bien précieux. Nous nous souvenons, bien sûr, et il faut tenir compte de cela, qu'à ce moment-là, il n'y avait aucun ministère écrit en dehors de l'Ancien Testament. Ces croyants réunis ici n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous l'avons, n'avaient pas les épîtres qui n'étaient pas écrites, et combien précieuse était pour ces rachetés d'entendre ce serviteur de Dieu auxquels avaient été données des révélations extraordinaires et nouvelles, notamment en ce qui concerne l'Assemblée, et qui va les entretenir de ses pensées de Dieu. Jusqu'alors un mystère non révélé, mais qui lui est accordé de saisir et de communiquer pour l'enrichissement spirituel des saints. Il va donc les enseigner et prolonger les enseignements, le discours qu'il donne, jusqu'à minuit. La question pourrait se poser pour nous-mêmes, aurions-nous cette persévérance et des besoins tels que nous écoutions l'enseignement des Écritures d'une telle manière? Ceci semble être comme un écho de ce que nous avons en Néhémie 8, lorsque la parole était lue et que tout le peuple, réuni comme un seul homme, écoutait dans un saint respect, un vrai tremblement, la lecture de la loi depuis l'aube jusqu'à midi. Des besoins. Des besoins auxquels la grâce de Dieu se plaît à répondre. Mais nous trouvons parmi cette foule un jeune homme, nommé Eutyche, assis sur la fenêtre, accablé d'un profond sommeil. Nous pouvons comprendre physiquement la fatigue de laquelle il a pu être saisi, au cours d'un si long exposé, mais il y a un sens plus profond et de nature à retenir notre attention. Un jeune homme assis sur la fenêtre, c'est une position intermédiaire. On n'est ni dedans, ni dehors. En quelque sorte, on a une oreille qui saisit ce qui se dit à l'intérieur, et on a une oreille comme aussi un œil tourné du côté du monde. Assis sur la fenêtre, de surcroît, il s'endort. Nous pourrions considérer dans la parole le nombre de fois où nous voyons les disciples, par exemple, s'endormant. Et ce qu'il en est résulté, le contexte qui entoure ce sommeil spirituel, bien sûr, pour nous. Ce jeune homme s'endort, accablé d'un profond sommeil, alors que Paul prêchait donc longuement. Il tombe. De quel côté? Il tombe en dehors. Ceci est digne de remarque. Une position intermédiaire, ni dedans, ni dehors, et lorsque les affections, spirituellement parlant, quant à cette position, sont partagées, un peu pour les choses du Seigneur, un peu pour le monde, l'ennemi souvent a gagné la partie. Et lorsque le sommeil s'empare d'une telle âme, on devient insensible à ce qui se dit à l'intérieur, la chute peut se produire, elle sera à l'extérieur. Il tombe. Mais ce qui est de nature à toucher nos cœurs et qui constitue un précieux encouragement, lorsque constatation doit être faite qu'un enfant de Dieu ou qu'un enfant de croyant tombe à l'extérieur, semble ne plus avoir la vie ou ne pas avoir la vie, car lorsqu'on descend pour prendre conscience de la condition dans laquelle il se trouve, il paraissait mort. Quelle est l'attitude si pleine de grâce et touchante de l'apôtre? Nous pourrions nous attendre à des déclarations qui surgiraient dans nos cœurs naturels et dire « cela ne pouvait pas manquer d'arriver », etc. Mais que fait-il? Il l'embrasse. Combien cela est digne de toucher les affections. Il l'embrasse. L'ayant embrassé, nous est-il dit, il leur dit « ne soyez pas troublés, son âme est en lui. » Quel encouragement, quelle consolation. Si nous transposons de telles déclarations sur le plan spirituel et les appliquons à des conditions souvent pénibles, douloureuses pour les parents plus particulièrement. Mais nous voyons que ces circonstances affligeantes pour tous ceux qui étaient là n'ont pas interrompu néanmoins la vie de l'assemblée. Elle se poursuit. Et nous voyons l'apôtre qui remonte et il peut être dit, ayant rompu le pain et mangé, converse avec eux jusqu'à l'aube, après quoi il s'en va. Et la consolation est accordée longtemps après, et il s'est passé bien des heures depuis minuit, ou peut-être avant, jusqu'à l'aube, des heures de préoccupation. Mais la grâce accorde à cette assemblée de voir ce jeune homme ramené vivant. Il avait bien la vie et la grâce de ressort. Ils furent extrêmement consolés. Dans le paragraphe suivant, nous avons un enseignement également bien touchant pour nos cœurs en rapport avec la vie du croyant, la vie du serviteur de Dieu. Il nous est dit qu'ils ont fait voile vers Assos. Et là, il devait reprendre Paul parce qu'il avait ordonné de l'attendre là, ayant lui-même souhaité accomplir une longue traite qui devait, semble-t-il, avoir entre 50 et 60 kilomètres à pied pour marcher seul. Combien précieuse est la communion fraternelle, voire même indispensable. Mais le Seigneur peut accorder de précieuses consolations et compensations pour les âmes qui, indépendamment de leur volonté, connaissent si souvent et douloureusement l'isolement. Néanmoins, ce n'est pas dans le but d'être seul que la vie est accordée à l'homme, la vie de Dieu. C'est pour rassembler. Le Seigneur est mort pour rassembler, et non pas pour disperser, ce qui est l'œuvre de l'ennemi. Et tous ceux que nous voyons dans la seconde épître à Timothée, qui ont à cœur de se séparer de l'injustice ou de l'iniquité, c'est pour se rassembler avec ceux qui invoquent le Seigneur dans leur cœur. Donc le rassemblement est quelque chose selon Dieu et qui doit constituer un besoin pour les rachetés. Mais beaucoup en éprouvent la privation. Combien dans d'autres contrées que les nôtres, où il y a la liberté du rassemblement, souhaiteraient se trouver dans des rencontres telles que celles que nous goûtons ici même ce soir. Ils en sont privés, mais ils peuvent éprouver toutes les compensations, les consolations que comporte pour eux le petit sanctuaire. L'apôtre a pu achever sa course en disant « Tous m'ont abandonné ». Et combien il aurait souhaité être dans la compagnie des frères. C'est ce qui lui a été accordé comme dernier rafraîchissement en acte 28, lorsqu'arrivant aux trois tavernes avant d'être mis à mort, il nous est dit de lui qu'ayant rencontré les frères, il rendait grâce et prit courage. Un besoin de communion fraternelle. Mais si vrai que je sois, ce besoin, si nécessaire qu'il soit, si précieux qu'il soit, il n'en demeure pas moins que le croyant a besoin d'intimité personnelle avec le Seigneur. Il a besoin de se mettre à l'écart, comme le Seigneur pouvait dire aux siens, « Retirez-vous un peu à l'écart pour être avec lui. » Nous avons un serviteur ici d'une éminence particulière, néanmoins, si éloquent qu'il fût, si précieux que fût son ministère, il n'est pas une source. Il est comme tout serviteur un canal qui a pour mission, comme responsabilité, de puiser à la source et de transmettre l'eau qu'il a reçue dans toute sa pureté, dans toute sa fraîcheur, dans son intégrité, sa totalité, mais il demeure un canal. Et il faut donc que le serviteur se nourrisse. Il faut qu'il s'abreuve. Et Paul, bien qu'appréciant hautement, goûtant cette compagnie, cette affection fraternelle de ceux qui l'accompagnent dans ce voyage, il sent le besoin de faire une longue traite, seul, à pied. Ceci est de nature aussi à placer devant nos cœurs cette nécessité du seul à seul avec le Seigneur. La vie du sanctuaire, l'atmosphère du sanctuaire dans laquelle nous avons à nous trouver seuls. David l'a réalisé, c'est dans le lieu saint qu'il l'a contemplé. Nous connaissons son vœu du psaume 27 au verset 4, qu'il a demandé une chose à l'Éternel, c'est de se trouver tous les jours dans la maison de l'Éternel, pour être dans cette intimité personnelle avec son Dieu. C'est là qu'il découvre sa beauté. Et nous pensons d'une manière particulière à la jeunesse. Dans des jours tels que ceux que nous vivons, ou peut-être plus qu'auparavant, on sent ce besoin de faire tout en collectivité. Il nous semble que l'intimité, la solitude est du temps perdu. Mais n'oublions pas que le serviteur du Seigneur est formé dans le seul à seul avec le Seigneur. Ce n'est pas dans une école de théologie que Moïse a été envoyé. Et seul, derrière le buisson, dans le désert. Ce n'est pas non plus à une haute école, bien qu'il l'ait suivi, celle de Gamaliel, que Paul a reçu sans doute les leçons les plus précieuses. On peut bien penser que c'est dans la solitude, voire même en Arabie. On pourrait multiplier les exemples. Combien de serviteurs ont été formés dans l'intimité. Et que nos chers jeunes prennent conscience de cette nécessité du seul à seul avec le Seigneur. L'atmosphère de la piété cultivée dans le foyer familial est de la plus haute valeur. C'est certainement le climat le plus précieux dans lequel une plante peut croître spirituellement. Mais si précieux que ce soit, le jeune doit apprendre, comme Daniel l'a vécu, à être seul devant le Seigneur, ployant ses genoux, il le faisait trois fois le jour, et à lire et méditer avec prière sa parole. C'est là qu'il croîtra. Cela ne veut pas dire que les expériences collectives l'empêcheront de croître. Mais il a besoin d'être au pied du Seigneur tout seul. Marie l'a saisi. C'est là qu'elle a appris à connaître le cœur du Seigneur et a appris à savoir ce qu'elle pouvait faire pour lui. C'est là qu'elle l'a discerné. C'est la seule qui a compris qu'il fallait lui offrir quelque chose pour le jour de sa sépulture. Paul a fait donc cette longue traite. Ta parole ne nous dit rien sur cette traite, car c'est une intimité, c'est entre le Seigneur et Paul. Mais nous pouvons bien penser qu'à plusieurs reprises, ce serviteur de Dieu s'est agenouillé sur le bord du chemin. Il reprend le navire et poursuit sa course et va rencontrer ses anciens d'Éphèse auxquels il donne rendez-vous, les faisant descendre donc à Milet. À partir du verset 17e, nous avons une rencontre de frères, une rencontre ici avec ses anciens d'Éphèse, qui est marquée d'un ton, d'une solennité particulière. Paul éprouve le sentiment que c'est la dernière fois qu'il les voit. Le Seigneur a conduit ses pas, a fermé le chemin pour qu'il retourne directement par voie à la Syrie. Il l'a fait remonter par le même chemin qu'il avait emprunté pour venir. Il y avait donc une raison. Et il faut qu'il s'arrête. Bien qu'il ait jugé bon de ne pas perdre du temps à Éphèse, il ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'il voie ses frères. Il va donc les rencontrer et il fait appel à ses anciens de l'Assemblée, c'est le verset 17e, les faisant venir auprès de lui. Et quand ils furent venus vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps depuis le premier jour que je suis entré en Asie, servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes et des épreuves. » Nous avons une évocation de l'autorité morale que réclame un service, et tout particulièrement, mais pas exclusivement, un service public, un ministère. La connaissance, bien sûr, a sa place. La fidélité, l'amour de la vérité, l'attachement au Seigneur et le désir de l'enrichissement des âmes a toute sa place. C'est bien là le mobile de tout service. Mais il y a cette autorité morale. Nous pourrions dire qu'il y a deux aspects. D'une part, l'âme qui écoute la vérité et qui réalise que ce qu'il entend est selon Dieu doit en tenir compte sans se préoccuper de la nature du canal par lequel la vérité lui est communiquée. C'est sa responsabilité. Ça, c'est la responsabilité de l'auditeur. Nous avons un exemple très frappant dans l'Évangile selon Matthieu, lorsque le Seigneur peut dire aux disciples toutes les choses que les pharisiens vous disent de faire, faites-les. Pourquoi cela? Parce que ce qu'il leur disait de faire, le joug que les conducteurs du peuple mettaient sur le peuple, sur les publicains, c'était la loi. Donc toutes les choses qu'ils vous disent de faire, faites-les. Vous êtes responsables. Parce que ces choses-là sont ce que j'ai ordonné. Et par ailleurs, il peut dire et prononcer un jugement très sévère à l'égard de ces hommes-là qui mettent un fardeau sur autrui et quant à eux, ils ne le portent pas même du bout de leurs doigts. Quant à eux, ils étaient dépouillés de toute autorité morale. Ils ne donnaient aucun exemple positif. Ils se retranchaient derrière une autorité de laquelle ils se prévalaient pour mettre des fardeaux et placer les Juifs devant leur responsabilité de se soumettre à la loi, et eux qui se soumettaient. Mais toutes les choses qu'ils vous disent de faire, faites-les, parce que c'est la loi, c'est ma volonté, et ces choses sont conformes à ce que j'ai demandé. Mais quant à eux-mêmes, alors, la responsabilité de celui qui parle, elle est entière si les choses qu'il enseigne, il ne s'y conforme pas lui-même. C'est bien la raison pour laquelle nous avons de nombreuses exhortations à l'égard d'hommes de Dieu ou d'évocation de leur caractère, où il nous est dit que ce qu'ils ont appris, ils l'ont fait. Nous ne pensons qu'à Esdras, duquel il est dit qu'il avait arrêté dans son cœur de rechercher la loi de l'Éternel, la faire et l'enseigner. Voilà un homme qui avait l'autorité morale en enseignant, parce qu'il enseignait ce à quoi lui-même se conformait. Donc une responsabilité de l'auditeur, une responsabilité du prédicateur, et du dispensateur des enseignements. Et ce que l'apôtre dit dans ce premier verset, avec les Éphésiens, souligne cette autorité morale qui doit normalement et nécessairement accompagner tout ministère, tout service, quel qu'il soit. Car c'est cela qui donnera un impact et une force irréfutable et une responsabilité accrue dans l'âme et l'esprit de celui qui entend. Quant au service accompli par Paul, il peut dire qu'il l'accomplit donc fidèlement, sans intérêt personnel, en toute humilité et avec des larmes et des épreuves. Car en effet, le Seigneur lui avait dit lorsqu'il l'a arrêté, ce saut de Tarse sur le chemin de Damas, il l'avait dit par Anania, il envoie vers Saul, duquel il peut dire, il prie, c'est la première activité de racheter du Seigneur, il prie quand il est arrêté, mais tu lui diras de ma part, et lui fera savoir combien il va souffrir pour mon nom. Nous voyons en cela la différence, nous l'avons déjà évoqué je crois, la différence entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. Dans l'ancienne économie, il y avait des promesses de puissance, de bénédiction, de biens matériels, de grand âge, etc. Dans la fidélité. Il pouvait être dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Il pouvait être dit à Josué, aujourd'hui je vais t'élever aux yeux de toute la nation. C'était la récompense pour la terre que Dieu se plaisait à dispenser à ses serviteurs fidèles. Sous la grâce, rien de semblable. Nous n'avons aucune promesse de prospérité matérielle, de longévité de vie, de richesse ou de bonheur. Ce qui nous est dit et ce qui est dit à Paul lui montrerait combien il doit souffrir pour mon nom. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur a été rejeté, son ministère s'est accompli dans la souffrance et dans les larmes, et ceux qui marchent à sa suite devront connaître les mêmes conditions. Le Seigneur l'a dit, comme ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront vous aussi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et Paul a su ce que c'était que de suivre un maître rejeté. Il a connu le mépris. Il peut même donner une énumération combien touchante de tout ce qu'il a subi, mais à laquelle il peut ajouter qu'en dehors de toutes ces choses, ce qu'il a tenu assiégé tous les jours, c'est cette égale sollicitude pour toutes les assemblées. Les larmes dans le service, mais la joie de servir. La joie de servir est une chose. Les larmes dans le service, c'est une autre chose. Et les deux choses vont souvent ensemble. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Soulignons qu'ils veulent, on peut l'éviter. Mais ceux qui veulent connaîtront les conditions qui sont liées dans ce monde à la fidélité et celles que le Seigneur a connues d'une manière absolue. Il n'a donc rien caché. Le ministère d'un serviteur et sa responsabilité, c'est en effet de transmettre, d'être un messager de la part de Dieu, du Seigneur, et de ne rien cacher. Je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables. Et il a enseigné aussi bien publiquement que dans les maisons. On pourrait s'arrêter, nous n'en avons pas le temps, mais sur cet enseignement, et l'exercice d'un don, quelle qu'en soit la nature, qui n'est pas limité à l'assemblée locale, qui n'est pas limité non plus, dirons-nous, aux heures de réunion. Un serviteur qui a reçu un don, et par exemple un pasteur ou un docteur, est appelé à l'exercer humblement et fidèlement, là où le Seigneur porte ses pas, que ce soit dans le cadre du rassemblement, ou que ce soit dans les rencontres fraternelles, voire dans les maisons. Nous avons une évocation de se servir dans les maisons au chapitre 5 du livre des Actes, à la fin du chapitre. Et c'est sans doute une nature de service qui est bien négligée de nos jours. Dans nos jours où les journées sont remplies, où la manière de vivre actuelle, organisée du réveil au coucher, où toutes les minutes sont déjà programmées pour des activités diverses, nous ne trouverons plus ce que nous avons connu il y a un demi-siècle, ce temps que l'on avait dans les demeures pour écouter un serviteur de Dieu qui, sans avis préalable, franchissait le seuil et apportait quelque chose du Seigneur. C'est une lacune, est souvent liée d'une part aux conditions actuelles et aussi à l'état de nos cœurs, au manque de serviteurs, mais c'est une perte que nous éprouvons. L'entretien est béni quant aux choses de Dieu quand on est assis dans la maison. Et nous pourrions citer et être occupés avec profit du nombre de seuils de maison que le Seigneur a franchis. Et quelle bénédiction il a apporté. Bien sûr, c'était le Seigneur. Mais ses messagers sont envoyés aussi de sa part dans les maisons. Il a donc enseigné publiquement et dans les maisons. Il avait reçu un service de la part du Seigneur. Et il nous faut bien distinguer dans ces quelques versets ce qui nous est dit par la mention des anciens et ce qui se rattache au ministère d'un serviteur qui a reçu l'exercice d'un don. Lorsqu'il s'agit du serviteur qui a un don, quelle que soit la nature, nous le répétons, il n'est pas lié, il n'est pas limité à l'assemblée, au cas de l'assemblée locale. Il doit s'exercer là où le Seigneur lui demande de l'exercer. C'est la raison pour laquelle, en acte 13, lorsque Paul et Barnabas sont choisis par l'Esprit Saint, mis à part pour accomplir leur service, et que nous voyons l'attitude si riche en enseignement et si bénie de cette assemblée d'Antioche, qui s'efface en quelque sorte devant l'appel du Seigneur, réalisant qu'elle ne peut en aucun cas entraver l'appel et l'envoi d'un serviteur. Et nous pouvons bien penser combien cette assemblée appréciait la présence et le ministère de ces deux hommes à Antioche, et peut-être aurait-il souhaité les avoir beaucoup plus longuement parmi eux, mais le Saint-Esprit les a appelés, il les envoie. Main d'association de l'assemblée, ils s'en vont avec la communion de l'assemblée et ils les laissèrent aller, est-il dit. Ils ne leur disent pas où ils doivent aller. Ils les laissent aller où le Seigneur leur montrera de s'en rendre. C'est le service. C'était le cas de l'apôtre qui passe de ville en ville, qui a un ministère d'une nature particulière et qui accomplit publiquement et dans les maisons ce que le Seigneur leur demande. En revanche, lorsqu'il s'agit des anciens ou des surveillants, il n'y a rien de semblable. La fonction d'ancien surveillant n'est pas un ministère, c'est une charge. Et la charge est locale. Elle ne va pas au-delà de l'assemblée locale. Si un frère a reçu de la part des frères une fonction particulière, elle peut être de nature très différente. Par exemple, de s'occuper des deniers de l'assemblée, si les frères ont reçu ces fonctions, c'est pour l'assemblée locale qu'ils n'auront pas à le faire dans une autre assemblée. Et chacun peut lire dans le chapitre 6 du livre des Actes cet enseignement si précis à cet égard. Jetez les yeux, frères, sur cet homme qui ont un bon témoignage rempli de l'Esprit Saint que vous établirez sur ce service. Il s'agissait de dispenser les biens matériels répondant aux besoins des veuves et les besoins de l'assemblée locale. Remarquons que dans l'envoi dans le service, c'est le Seigneur. Lorsqu'il s'agit de lier et délier, c'est l'assemblée. Lorsqu'il s'agit d'établir dans la fonction, dans une charge locale, ce sont les frères. Jetez les yeux, frères. Mais nous avons aussi la communion des frères. Et nous avons aussi la mention de la nécessité de l'état spirituel convenant pour l'accomplissement des charges. Des hommes remplis d'Esprit Saint et des hommes dont la sagesse du Seigneur. Mais il est dit que les mains leur sont imposées, et c'est tout. Il n'est pas dit qu'il les laissèrent aller. C'est très frappant de voir la fin de ce paragraphe du chapitre 6 et la fin du paragraphe qui traite de ce sujet au chapitre 13, de voir que dans le cas des Paul et Barnabas, ils les laissèrent aller, dans le cas de ceux qui ont reçu une charge, ils ne leur disent pas d'aller, car ils restent là. Ceci est peut-être une parenthèse dans notre sujet, mais qui est très utile dans la vie d'une assemblée locale. Et le frère peut avoir une charge dans l'assemblée locale et un ministère qui passe au-delà de l'assemblée locale, de telle manière qu'il doit prendre garde à ne pas confondre les deux choses. La charge qu'il a dans l'assemblée locale ne va pas au-delà, alors que le service de la parole, ou quelle que soit la nature de son service de la parole, peut aller, il est sans limite. Mais passons plus loin. Et notons dans ces quelques passages ce qui a marqué le service et l'enseignement donné par l'apôtre. Quatre points qui sont dans un ordre chronologique, moral et spirituel, dignes de remarque. En premier, il nous est dit au verset 21 qu'il a prêché la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Secondement, nous avons au verset 24, il a rendu témoignage de l'évangile de la grâce de Dieu. Ensuite, nous avons troisièmement au verset 26e, il n'a mis aucune réserve pour annoncer tout le conseil de Dieu. Ça, c'est le quatrième point. Le troisième, nous avons verset 25, où il a dit qu'il a annoncé et prêché le royaume de Dieu. Et ensuite, il n'a mis aucune réserve à annoncer tout le conseil de Dieu. Il y a une progression dans l'évocation de ces quatre points. Premièrement, il a annoncé et prêché la repentance envers Dieu. C'est bien le premier message qu'un serviteur de Dieu adressera à des âmes inconverties. Il faut commencer par cela. Et le seuil d'entrée dans la sphère de toutes les bénédictions que le Seigneur veut dispenser à une âme, c'est la repentance. La repentance envers Dieu est toujours le seuil de la bénédiction. Qu'il s'agisse de la conversion, qu'il s'agisse de la restauration d'une âme en chute, d'un croyant en chute, c'est la repentance. Premier point donc, qui est l'objet du ministère de l'apôtre, prêcher la repentance envers Dieu. En second lieu, ce qui fait suite nécessairement, c'est parler de la grâce de Dieu. Car prêcher la repentance sans donner les ressources de la grâce pourrait plonger une âme dans le désarroi et dans le désespoir. Deuxième point, c'est lui parler de l'évangile, de la bonne nouvelle, de l'amour divin, et lui prêcher la grâce de Dieu. Placer devant cette âme toutes les ressources de l'amour et de la grâce. Second objet d'un ministère dans un ordre moral et dans un ordre spirituel. Et troisièmement, il a prêché le royaume de Dieu, c'est-à-dire il a ouvert devant cette âme toute la sphère et toute l'ensemble des bénédictions divines dans lesquelles cette même grâce de Dieu veut introduire une âme. Tout ce royaume des bénédictions de la grâce. Il est ouvert, on peut dire, devant le regard de la foi et d'une âme qui a reçu l'évangile et la grâce de Dieu. Et quatrièmement, il annonce tout le conseil de Dieu, les pensées de Dieu. Une âme est appelée non seulement à recevoir l'évangile et à entrer dans la connaissance de l'existence d'une sphère de bénédiction, mais il faut qu'elle entre dans la compréhension et la jouissance des pensées de Dieu. Et il n'a mis aucune réserve. Il n'avait pas le droit de retenir quoi que ce soit. Tu diras toutes les paroles que je t'ai dites. Disons-nous plusieurs fois dans l'Écriture, ce sont les paroles de l'Éternel à ses serviteurs. Même un petit Samuel devait dire toutes les paroles que l'Éternel avait dites au sujet d'Élie. Et Agjé a dit toutes les paroles que l'Éternel lui disait de dire à l'égard du peuple. Responsabilité du serviteur, je n'ai rien caché. Il a annoncé tout le conseil de Dieu. Quatre points donc, qui sont comme quatre pivots d'un ministère complet. Prêcher la repentance, annoncer la grâce de Dieu, ouvrir les trésors de la richesse, des immenses richesses de sa grâce, faire connaître toutes les pensées de Dieu. Quelle merveille d'un ministère complet. Et nous réalisons par cela que l'apôtre avait aussi bien le don d'évangéliste que le don de pasteur, que le don de docteur, que celui de prophète. À la suite de l'évocation de ce ministère complet, il adresse à ses chers Éphésiens trois exhortations, trois mises en garde, car les temps seront mauvais. Il va bientôt se lever et Paul le sait, il le pressent, et son intimité avec le Seigneur le lui a fait connaître. Il va bientôt se lever des temps de trouble. Il va bientôt se lever parmi vous des hommes, parmi vous, si nous soulignons bien, des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Il y a les dangers qui viennent de l'extérieur et il y a les dangers qui surgissent de l'intérieur dans la maison de Dieu. Ce sont les caractères des deux lettres qui sont adressées premièrement à Smyrne et ensuite à Pergame. Dans l'Apocalypse, au début de l'Apocalypse. Ce qui vient de l'extérieur, il y a eu les persécutions, et il y a ce qui vient de l'intérieur. Et nous sommes souvent plus attentifs, plus vigilants quant à ce qui vient de l'extérieur que quant à ce qui surgit de l'intérieur. Nous veillons peut-être moins quant à l'intérieur. Et le premier intérieur, ce sont nos cœurs. Non pas le cœur de mon frère ou de ma sœur, mais notre propre cœur. Veillez sur ce qui peut surgir de l'intérieur. tant de choses qui sont à l'origine, partant de l'intérieur dans la vie des assemblées ou l'assemblée, qui peuvent engendrer des troubles s'il n'y a pas cette humilité, cette conscience des droits du Seigneur dans son assemblée et sur nos cœurs, qui maintient dans l'humilité la dépendance et qui met de côté l'activité si subtile et puissante de la chair. Danger d'extérieur, danger de l'intérieur, il se lèvera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau d'entre vous-mêmes. Sans doute que cela pouvait paraître à ces Éphésiens quelque chose d'imprévisible et presque d'impossible. Si nous pensons à la lettre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, qui traite des plus hautes sphères des bénédictions divines, nous sommes appelés et envisagés dans cette lettre au sommet, on peut dire, du niveau spirituel auquel la grâce divine nous conduit, assis dans les lieux célestes en Christ. Quand nous ouvrons la deuxième lettre aux Éphésiens, dans l'Apocalypse, nous voyons combien cette assemblée a décliné. C'est certainement par l'intérieur que l'ennemi a agi et a enlevé des cœurs la jouissance de la fraîcheur du premier amour. Et l'altération du premier amour, d'un amour pour le Seigneur sans partage, lorsque cet amour vient partager et qu'il a plusieurs objets et que cette fraîcheur s'en va, on peut dire que c'est la porte ouverte à tout le train de misère et d'écart qui peut passer par cette porte. Alors il peut leur dire et leur prononcer trois exhortations qui sont bien brèves. Première au verset 28. Prenez garde. À quoi donc? À vous-même. Première chose. Prenez garde à vous-même. Il pouvait être compté au nombre de ceux qui avaient tout surmonté. Il fallait tenir ferme. Prenez garde à vous-même. Veillez sur nos cœurs, veillez sur nos voies, car l'ennemi connaît nos cœurs mieux que nous ne les connaissons. Il y a 6000 ans qu'il pratique le cœur de l'homme. Il sait par quel biais il faut le prendre. Et son succès ne fait que se confirmer au cours des siècles. Prenez garde à vous-même. Quelle solennité dans ce langage si bref, mais si incisif de l'apôtre à l'égard de ces chers Éphésiens qui étaient dans de bonnes conditions spirituelles. Pourtant, prenez garde à vous-même. Ensuite, il place devant eux le service si important pour le bon ordre dans la maison de Dieu, où il leur dit de paix l'assemblée de Dieu. Paix l'assemblée de Dieu. Comme des pasteurs, ce sont des anciens qui peuvent avoir un don, ils sont en mesure peut-être d'enseigner et qui ont une mission, une responsabilité particulière, en dehors d'un titre qui aujourd'hui n'existe plus, n'est plus donné, puisque nous n'avons plus la puissance et l'autorité apostolique pour nommer les anciens, ça n'existe plus. Mais néanmoins, combien nous pouvons souhaiter que les rachetés du Seigneur revêtent ces caractères moraux et spirituels et qu'il y ait des surveillants qui veillent pour les âmes, qui veillent pour le bien des âmes, comme le dit Pierre dans une épître. Être le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu doit être nourri. Il doit être nourri. Que dirions-nous d'un berger qui conduit son troupeau dans une carrière? L'amour qu'il a pour ses brebis le fera rechercher des terrains où il y a de l'herbe en abondance. Être le troupeau de Dieu. Dispenser la nourriture. Pour cela, il faut connaître où sont les champs où il y a les gras pâturages. Il faut au moins les connaître pour diriger le troupeau dans la bonne direction. Être le troupeau de Dieu. Pour cela, il faut que les conducteurs aient déjà savouré, on peut dire, pour eux-mêmes, toute la bénédiction qu'il y a à se nourrir dans ces pâturages. Nous pourrions dire, cela ne peut être que le partage de serviteurs qui ont une grande connaissance de la parole, qui ont toute une vie derrière eux, donc tous les jeunes, nous sommes encore jeunes, que pourrions-nous apporter pour qu'il y ait de la bénédiction et de la nourriture pour le peuple? Mais détrompons-nous. On peut apporter quelque chose de la part du Seigneur et que ce soit à nos yeux insignifiant. Mais si c'est au pied du Seigneur qu'on l'apporte et pour le bien du troupeau, il le bénira pour l'ensemble. Et nous pensons nécessairement à cette scène de la multiplication des pains où il y avait un jeune homme. Qu'avait-il ? Pour nourrir toute une foule.
5 pains et 2 poissons.
C'est bien quelque chose qui paraissait insuffisant et plus que cela, presque inutile de présence. À quoi bon apporter 5 pains et 2 poissons pour une foule entière ? Ça ne sert à rien. Mais que dit le Seigneur ? Apportez-les-moi ici. Les apporter aux pieds du Seigneur, il saura le multiplier, il y aura de la nourriture, il y en aura de reste. Quel encouragement ! Sainte parole, avec l'esprit, sainte parole de la part du Seigneur, il saura multiplier pour la nourriture de l'ensemble, pour la nourriture du troupeau de Dieu. C'est un encouragement pour des jeunes frères spirituels qui ont à cœur le bien de l'Assemblée, sa prospérité. Ils sont convaincus des caractères du témoignage selon Dieu, qui sont attachés au Seigneur, mais qui pourraient peut-être craindre, conscients de leur petitesse, qui est une bénédiction quand on le sait et qu'on le ressent, d'apporter 5 pains et 2 poissons. Le Seigneur les multipliera, il y aura de la bénédiction par une nourriture qu'il veut lui-même donner en abondance. 3e exhortation, elle est plus brève encore au verset 31, un seul mot, veillez. Veiller et se souvenir. Se souvenir du service de l'apôtre et dans quelles conditions il accomplit. Veillez. Je vous dis, veillez. Et s'il y a tant de faiblesses dans vos vies spirituelles, personnelles, tant de faiblesses dans la vie de l'Assemblée, c'est que nous avons manqué de vigilance. Nous sommes sans doute distancés de cette crainte du Seigneur qui conditionnait la prospérité des assemblées au début de ce livre des Actes. Tout homme avait de la crainte. Les assemblées marchaient dans la crainte du Seigneur. Il est frappant que sur 3 exhortations à l'égard de l'assemblée, il y en a 2 qui s'adressent aux croyants personnellement. La première, prenez garde à vous-même, la troisième, veillez. Et entre ces 2, prenez soin du tout. Quel équilibre. Pensez déjà à soi-même quant à la responsabilité en face de la fidélité que nous avons à démontrer devant le Seigneur. Et c'est dans cette mesure, encadrée entre ces 2 exhortations, de prendre garde et de veiller, il est accordé d'être un canal de bénédiction vaste. Paul arrive au terme de sa course. Va-t-il dire, eh bien, je vous recommande à mon successeur. Rien de semblable. Il recommande l'assemblée à Dieu. Déjà, il n'y a pas de succession apostolique, nous le savons. Mais aucun serviteur peut recommander l'assemblée à ceux qui succèdent. Mais nous pouvons la remettre aux soins du Seigneur et à la puissance de sa parole. Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, verset 32, et à la puissance d'édifier et de vous donner un héritage avec Dieu les sanctifiés. Mais il faut se souvenir. Nous avons lu « Veillez vos souvenirs ». Nous souvenir de nos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs. Nous connaissons cette exhortation des Philippiens. Et je vous recommande à la parole de sa grâce. Quant à lui, il est au terme de son chemin. Il est au terme de son ministère, de sa course. Tout ce qu'il demande, c'est d'achever sa course selon la pensée de Dieu. Ne faisant aucun cas de sa vie, s'effaçant quant à lui-même. Il peut dire, pourvu que j'achève ma course. Il pourra dire, à la fin de la 2e épître à Timothée, j'ai achevé la course. C'est en effet ce qu'un serviteur spirituel est désireux d'honorer le Seigneur peut demander, qu'il nous accorde d'achever notre course et d'être trouvé dans le dernier pas, là où il nous veut, dans le sentier qui nous a tracé. Pourvu que j'achève la course. Et le service qui m'a été confié, que j'ai reçu du Seigneur. Nous comprenons ce scrupule, cet exercice dans cet homme vivant près du Seigneur d'accomplir le service qu'il a donné. Et nous comprenons qu'il puisse écrire aux Colossiens, se servant de l'assemblée, d'une lettre à une assemblée, pour faire dire à Archip, dites Archip, qu'il s'acquitte du service qu'il a reçu dans le Seigneur. Quelle perte pour l'assemblée! Quelle perte pour un serviteur, un croyant, que de décliner le service que sa grâce nous confie, quelle que soit la nature, quelle que soit l'ampleur du service. Il a achevé la course, Il n'y a qu'un seul serviteur qui a pu dire et achever l'œuvre, c'est le Seigneur. Bien des serviteurs ont achevé la course, mais nous voyons que des serviteurs peuvent démontrer qu'ils n'ont pas achevé l'œuvre dans laquelle la grâce les avait introduits. David a achevé sa course, il n'a pas pu achever l'œuvre, il a dû remettre l'œuvre à son fils Salomon. Vous pouvez multiplier les exemples où vous voyez des serviteurs qui n'ont pas achevé l'œuvre. Il a dit de Moïse, quand il a terminé le tabernacle, qu'il a achevé l'œuvre. Mais nous le voyons sous cet aspect comme étant un type du Seigneur en rapport avec l'édification de sa maison, de son assemblée. Mais sur le plan pratique, nous voyons qu'il n'a pas achevé l'œuvre, puisqu'il n'a pas pu introduire le peuple dans le pays. Josué n'a pas achevé l'œuvre, puisqu'il restait un grand pays à posséder. Mais le Seigneur peut dire, au terme de son service, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Deux mots sur la scène de la séparation qui ne peut manquer de toucher nos cœurs. C'est accompagné d'une solennité qui nous émotionne. L'apôtre va donc quitter ses chers Éphésiens, les recommandant au Seigneur, à Dieu et à la puissance de sa grâce. Et qu'avons-nous lu dans la fin de ces passages? Après que l'apôtre ait parlé de son ministère, et nous devons déjà souligner ce point-là, l'apôtre met en quelque sorte, soumet son service et son ministère à l'appréciation des anciens d'Éphèse. Il peut dire même dans ce verset 33, « Je n'ai convoité ni l'argent ni l'or, ni la robe de personne. Vous savez vous-même que ses mains ont été employées pour mes besoins, pour les personnes qui étaient avec moi. » Il demande en quelque sorte quittance de son ministère aux anciens d'Éphèse. Avons-nous quelque chose de semblable chez le Seigneur? Jamais. Ce n'est pas de l'homme qu'il attend l'appréciation, c'est de son Dieu. Et nous pouvons même dire qu'il cède lui-même son service et son œuvre. Il peut dire qu'il s'est toujours proposé l'Éternel, qu'il a toujours fait les choses qui lui plaisent, et achevant sa course et son ministère, il peut dire « Je t'ai glorifié ». Quant à son œuvre, il peut dire « C'est accompli ». Il scelle son œuvre, il scelle son chemin. Il ne le remet à l'appréciation d'aucun homme. Combien cela est grand et marque la distance qu'il y a toujours entre le maître et le serviteur. Si proche que puisse vivre et marcher, si près que puisse marcher le serviteur. Mais il n'atteindra jamais la mesure du maître. Le Seigneur scelle sa vie, son ministère et son œuvre. Paul lui remet son service à l'appréciation des anciens d'Éphèse. Un peu plus loin, nous avons pu lire dans ce cours de ce chapitre qu'il va se rendre à Jérusalem et qu'il ne sait pas les choses qui l'attendent, si ce n'est qu'il y aura bien affliction. Ignorance quant à ce qui est devant lui. Avons-nous quelque chose de semblable quant au Seigneur, duquel il nous a dit en Jean 18, sachant les choses qui devaient lui arriver. Y avait-il quelqu'un connu dans la vie du Seigneur? Aucune. Avant même de venir dans ce monde, il savait ce qui serait devant lui. Lorsque par l'esprit prophétique, il peut dire « Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté », il sait ce que comporte cette volonté. Et se rendant vers Jérusalem, cette ville qui tue les prophètes et lapide ceux qui lui sont envoyés, dressant sa face comme un caillou vers cette Jérusalem, il sait parfaitement les choses qui l'attendent. En troisième lieu, il peut dire à ses Éphésiens qu'ils ne verront plus son visage. Et c'est ce qui procure du reste tant de tristesse et de larmes chez tous ceux qui sont avec lui au moment de cette séparation. Vous ne verrez plus mon visage. Est-ce que le Seigneur a dit quelque chose de semblable? Lorsque nous lisons la scène qui fait suite immédiate à sa résurrection, lorsqu'il s'adresse aux femmes qui sont là au sépulcre, il peut leur dire, allez en Galilée, dites à mes disciples qu'ils aillent en Galilée, là ils me verront. La perspective quant à Paul, c'était de ne plus le voir. La perspective des rachetés du Seigneur, c'est de voir le Seigneur. Ils l'ont vu en Galilée. Et quelle est la perspective de l'Église? Qu'attendons-nous comme croyants? Faites-le voir. Nous lui serons semblables, peut dire Jean dans son épître, car nous le verrons comme il est. Voilà ce que nous attendons. Quelle différence? Le serviteur s'efface. Le service prend fin. Mais le divin serviteur est éternel, et ceux qui l'ont suivi et servi auront le privilège de le voir. Un autre point encore, nous voyons que l'apôtre, il nous dit au verset 36e, « Ayant dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. » Combien précieuse est cette prière en commun? Et d'une manière bien particulière, lorsque nous nous séparons les uns des autres, quelle douceur que de pouvoir nous recommander ensemble au Seigneur, joyer les jours ensemble, prier ensemble. Paul a prié avec eux. Avons-nous une seule mention dans les évangiles de la prière du Seigneur avec ses disciples? Oh, il ne nous a jamais dit que le Seigneur a prié avec ses disciples. Mais nous voyons combien de fois qu'il a prié pour eux. Bien sûr qu'il a rendu grâce lorsqu'il a institué la scène et dans des circonstances de cette nature. Mais se mettre à genoux avec ses disciples pour exprimer des prières. Nous le voyons pas. Les sujets de prière du Seigneur ne sont pas ceux des disciples. Le Seigneur est seul quand il prie sur la montagne. Il monta seul sur la montagne pour prier. Ce n'est pas avec ses disciples qu'il priera même à Gethsémané. Il est seul. Et lorsque nous entendons sa prière de Jean 17, il ne prie pas avec ses disciples. Et maintenant, l'homme Dieu qui continue à prier, le Seigneur continue à prier, il a prié toute sa vie, l'évangile de Luc le souligne. Il prie encore. Où prie-t-il? Dans le ciel, toujours vivant pour intercéder pour nous. Mais il prie seul. Paul a prié avec tous ceux qui étaient là. Le Seigneur prie pour les siens. Il intercède pour les siens et non pas avec. Et pour terminer, nous voyons que au moment même de la séparation, il verse beaucoup de larmes et se jette au cou de Paul et le couvre de baisers. Cette scène est touchante et témoigne de l'attachement de ces Éphésiens à l'apôtre Paul. Lorsque le Seigneur a quitté cette terre, lorsque méprisé, rejeté, condamné et crucifié, il va être élevé de la terre. Combien sont ceux qui ont apporté quelques consolations? Le langage des psalmistes est là pour nous dire qu'il a cherché des consolateurs. Il n'y a eu personne. Quelqu'un qui eut compassion de lui, il n'a été trouvé personne. Regarde à droite, dit le psalmiste, et vois s'il y a quelqu'un qui s'enquiert de mon âme. Quelle différence. Solitude du rejeté de l'homme parfait. On se jette au cou de l'apôtre. Une spontanéité affectueuse qui nous touche. Jamais nous ne voyons quelqu'un qui s'est jeté au cou du Seigneur pendant sa vie. On s'est jeté à ses pieds. C'est le Seigneur. La femme pécheresse et la femme adoratrice, nous les voyons toutes deux aux pieds du Seigneur. Cette liberté de se jeter au cou du Seigneur ne saurait être convenant qu'on se jette à ses pieds. Quant à l'apôtre, on se jette au cou de l'apôtre, on le couvre de baisers. Combien de baisers, Seigneur, a-t-il reçu? Il en a reçu, mais à ses pieds. Cette femme aux pieds du Seigneur, arrosant ses pieds de ses larmes, celle de la repentance, le couvre de baisers. Combien précieuses ont été ces baisers, mais encore une fois, c'est à ses pieds qu'ils sont donnés. C'est à ses pieds qu'ils sont offerts. Nous avons des baisers qui ont été offerts au Seigneur. Nous pensons aux baisers de Judas, au moment où le Seigneur est rejeté. Tu livres le Fils de l'homme par un baiser. Il le baisa avec empressement. Le baiser de la haine, de la fausseté. Voilà le baiser que le Seigneur a reçu lorsqu'il a quitté cette terre et lorsqu'il a quitté les cieux. Paul a été couvert. Bien sûr que l'exemple de l'apôtre Paul est un exemple remarquable et qui nous incite à refléter quelque chose de ce qu'il a connu, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a vécu. Mais l'exemple du Seigneur est un modèle inimitable qui produit l'adoration. Les disciples ont suivi le Seigneur, c'est Jean 1. L'ayant regardé marcher, l'ayant entendu parler, ils le suivirent. Ils arrivèrent là où il demeurait. Que le Seigneur produise la grâce, cette grâce dans nos cœurs et ce désir de l'entendre par sa parole, de le regarder marcher par les yeux de nos cœurs afin d'être conduit à le suivre en marchant comme il a marché. Où est-ce que cela nous conduira? Là où il demeure. Où demeure-t-il? Dans la maison du Père. C'est là que le suivant, jusqu'au jour de son retour, il nous accordera la grâce, au moment de sa venue, de franchir la maison du Père et de le voir comme il est.